Radio Éthique.
Écoute la planète.
Chaque jour, un tête-à-tête sur la planète, c'est l'invité de Radio Éthique.
De la soupe, du pain et de la compassion, c'est ce qu'apporte chaque semaine depuis plus de 15 ans Soupe de Nuit aux personnes sans domicile fixe ou en grande précarité, principalement à Nice. Aux manettes de cette association, un couple hors du commun, uni par le besoin d'aider les autres, Gisèle et Jean-Pierre Cotalorda. Elle est présidente et lui, secrétaire. À eux deux, ils forment un duo de cœur.
Soupe de Nuit est née en 93, mais nous étions sous l'égide d'une association monégasque. Nous y sommes restés jusqu'en 97, date à laquelle cette association s'est désengagée de l'action sous prétexte que nous n'étions plus en sécurité dans les rues de Nice, ce qui n'est pas juste du tout. Et donc nous avons appelé au secours la Croix-Rouge monégasque qui nous a été d'un grand secours et qui nous a remis le pied à l'étrier et qui nous a suggéré de créer notre propre association. Et c'est donc en 98 que Soupe de Nuit est née.
Donc Soupe de Nuit, elle collecte des vêtements, elle distribue de la nourriture, c'est-à-dire qu'elle distribue des paniers repas tous les jeudis dans les rues de Nice et de Menton.
Les distributions ont lieu tous les jeudis, sauf l'été, à deux endroits fixes. Le premier est l'accueil de jour derrière la patinoire Jean Bouin et le second se passe sur le parking de la gare des chemins de fer de Provence. Plus une équipe de maraude de trois personnes qui arpentent les rues de Nice à la rencontre des SDF. Avec le temps, le profil des bénéficiaires de l'association a évolué, signe d'une précarité qui touche à présent les plus jeunes, mais aussi les retraités et les populations immigrées.
Ce sont en premier lieu les SDF. Après, nous avons des jeunes qui n'ont pas le RSA, donc qui sont en dessous de l'âge limite pour toucher le RSA. Nous avons les bénéficiaires du RSA, nous avons les pays de l'Est, nous avons les Maghrébins, nous avons les Africains, nous avons les retraités. Et tout ce monde-là se mélange. Contrairement au départ, où nous n'avions que des SDF, au fur et à mesure que les années passent, la population se diversifie énormément et tous ces gens-là se côtoient pour une même distribution.
Est-ce qu'il y a des conditions d'accès à cette aide ?
Aucune condition. Les gens qui se présentent sont servis sans aucune différence, ni de couleur, ni de provenance, ni de quoi que ce soit. Je veux dire, nous ne faisons aucune différence. Celui qui se présente, celui ou celle, est servi de la même manière.
On fait passer les femmes et les enfants d'abord. Oui, c'est la seule différence.
Est-ce qu'il y a des familles également qui viennent ?
Oui, il y a beaucoup de familles, et notamment les familles de Rome, qui viennent avec des enfants, souvent en bas âge.
On peut dire 30 enfants de moins de 12 ans.
Pour les plus petits, est-ce qu'il y a des besoins particuliers pour du lait, par exemple ?
Ce serait possible. C'est vrai que nous, on n'assure pas vraiment ça, mais c'est quelque chose auquel il va falloir que nous pensions vraiment. Parce que bon, maintenant, les enfants ont tendance à être de plus en plus nombreux. Et je pense que pour la saison prochaine, on sera amené à envisager ce genre de choses, y compris peut-être des couches ou des choses comme ça pour les bébés.
Très concrètement, comment est-ce que vous vous organisez pour récupérer la nourriture nécessaire toute la semaine ?
Mais on ne récupère pas, on achète. Concrètement, on achète à Carrefour, à Monaco. C'est notre principal fournisseur, mais en payant, on achète entre 350 et 400 euros de marchandises par semaine. Ça consiste en du pain, à peu près 300 baguettes de pain. Entre jambon et fromage, on achète pour 900 portions, hein, qui se répartissent pas tout à fait à part égale, un peu plus de fromage que de jambon, hein, mais voilà, c'est à peu près ça. On achète du chocolat, on achète des boîtes de conserves, qui sont essentiellement des boîtes de sardines.
Il n'y a pas d'aide particulière de la part des supermarchés qui font un petit geste pour vous aider ?
Alors les supermarchés, Carrefour, c'est le seul qui nous aide en nous donnant les viennoiseries de la veille. Donc c'est très 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 appréciable parce qu'on arrive à récupérer à peu près 400 pièces de viennoiserie. Donc ça nous fait à peu près une viennoiserie par personne. Donc c'est très intéressant. Mais moi personnellement, je considère que Carrefour, ce n'est pas une aide qu'ils nous font, c'est simplement un geste commercial. Et on laisse à Carrefour au moins entre 1000 et 1200 euros par mois. Hein. Et ils nous donnent, disons, 300 pièces de viennoiserie de la veille.
Donc vous vivez sur les dons et les cotisations des adhérents?
Absolument.
Il y a une autre forme de...
Non. Nous aurions eu la possibilité de demander une subvention au gouvernement, mais par éthique, nous avons préféré nous débrouiller par nous-mêmes. Donc nous faisons rentrer de quoi fonctionner en tenant un stand au Grand Prix de Monaco, un stand de sandwicherie. Nous faisons des brocantes et là nous venons d'avoir cette pièce de théâtre pour faire rentrer de l'argent, et cet argent-là nous permet de fonctionner, c'est-à-dire nous paye l'entretien du camion que nous avons, de la voiture, de l'assurance, de l'essence, des frais de secrétariat, ce qui fait que tous les dons, quels qu'ils soient petits ou gros, sont en direction de la rue.
J'insiste un petit peu, mais on est très 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 attentif à cette chose-là. Toutes les associations, ou à peu près toutes les associations, notamment en France, fonctionnent avec des frais de fonctionnement de l'ordre de au moins 10%. Eh bien nous, c'est zéro. Nous, 1 euro de don, 1 euro, c'est 1 euro de pain, fromage, jambon. C'est clair, 1 euro, quand on nous donne 1 euro, ce n'est pas 1 euro d'essence, ce n'est pas 1 euro d'assurance, c'est 1 euro de nourriture. Voilà.
Donc les vêtements que vous distribuez également ont été donnés par des particuliers. Et vous parliez tout à l'heure de vêtements qui étaient neufs aussi.
Oui,
il y a un généreux donateur qui offre des vêtements
tout
neufs.
Tout à fait, tout à fait. Voilà, toutes les années, nous avons une personne donc, qui ne veut pas qu'on la cite, qui nous offre non pas de l'argent, mais ce dont on a besoin en vêtements. Alors au début, on avait effectivement demandé des blousons, des jeans, des baskets, enfin tout ce qui est, j'allais dire, nécessaire à la rue. Chaud, pratique. Donc c'était très bien, nous avions eu 200 blousons, 200 jeans, 200 paires de chaussettes chaudes, des écharpes, tout ça. Voilà, un chiffre conséquent. Effectivement, nous étions, nous, tout contents de distribuer ça en disant « mais c'est formidable, ils vont avoir des affaires neuves, ça va être génial ». Sauf que on en est revenu, j'allais dire, parce qu'on s'est aperçu que les affaires neuves que nous distribuions, on ne les voyait pas vraiment sur le dos des gars. Et on a compris, effectivement, qu'on entretenait de cette manière un commerce, parce que c'était revendu, puis revenir en redemander. Donc ça nous a obligés à pointer aussi, en disant « non, non, mais tu as déjà eu, tu en as plus ». Enfin, bon, bref. Donc ça nous a un peu compliqué la vie. Du coup, on a décidé de mettre un frein à ça et de ne servir que l'urgence. On a dans le camion de quoi parer à toute éventualité. Et ça fonctionne mieux comme ça. Donc du coup, cette personne, on l'a sollicitée pour un peu d'alimentaire du coup. Voilà, on lui a demandé les boîtes de sardines. Ça nous évite, voilà, le chocolat, ça nous évite à nous d'avoir à le payer et c'est autant de gagner pour nous. Et du coup, on est en train de s'équilibrer de cette manière.
Qu'est-ce qui vous motive dans cette action-là? Vous êtes retraité, bon, vous avez du temps, certes, mais l'association existe depuis un bon moment. Pourquoi avoir choisi cette action-là?
On y est arrivé par hasard, mais vraiment par hasard. Notre plus jeune fils, un hiver de 93, donc il faisait particulièrement froid, a commencé à tourner avec le curé de la cathédrale, avec la responsable de Monaco et des présences, a commencé à tourner comme ça dans la rue et a été sensibilisé au sort de ces gens qu'il a vus dormir dehors, à qui ils amenaient une couverture, un peu de soupe, bon. Et il nous a dit, bon, et ça vous intéresserait pas de venir, de voir, de faire? On s'est dit, après tout, pourquoi pas? Donc nous avons commencé tous les deux, puis après avec un petit groupe d'amis, nous étions 5-6, et on a commencé à tourner, mais en fantaisie, j'allais dire. Jusqu'à un soir où on a rencontré, c'était le pasteur Claudel, que nous avons rencontré sur un lieu de distribution du côté du palais de justice de Nice, qui nous a demandé, qu'est-ce que vous faites là? Ben on fait là, qu'on a été sensibilisés au sort de ces gens qui sont par terre, il fait froid, on leur a amené des couvertures. Il a dit, mais attendez, tous les soirs, il y a quelqu'un, il y a une association différente qui passe. Le jeudi soir, c'est un soir où c'est libre. Est-ce que vous ne voudriez pas intégrer ce collectif et vous mettre le jeudi soir et venir de façon régulière? On s'est un petit peu tâté en disant, attends, si on dit oui, c'est un engagement. Ce n'est pas en fantaisie, on y va, on a envie, on y va, on n'a pas envie, on n'y va pas. Et puis on s'est dit, après tout, allez, Allez, d'accord, on le fait. Donc, on s'est inscrit là-dedans. Au début, c'était artisanal. On faisait la soupe dans nos cocottes minutes. On mettait du papier journal autour, des serviettes éponges pour tenir tout ça au chaud. Puis, on courait vite à Nice pour leur porter. Ils n'étaient pas très nombreux. Et puis, finalement, on a mis le doigt, on s'est fait prendre le bras. Et voilà. Et puis, le chiffre a augmenté. Et puis, on a commencé à s'organiser, à perfectionner un petit peu nos tournées. Et puis on est toujours là, quoi. Et puis maintenant, on se dit, ce serait bien que quelqu'un prenne le relais. Non pas qu'on s'en désintéresserait, mais laisser la responsabilité de cette association à quelqu'un d'autre, tout en continuant à y participer. Mais pour le moment, ben, y a personne qui se profile à l'horizon. Et donc, on n'a pas envie que ça tombe.
Et cette soupe de nuit, est-ce qu'on peut dire qu'elle a apporté un peu de sel dans votre vie, j'imagine ?
Oui. C'est évident. Parce que on parlait de la motivation. La motivation essentielle, évidemment, c'est la compassion. Voilà, c'est la compassion qu'on a. Ensuite, quand on réfléchit à ce qu'on fait, on donne du pain, de la soupe. Je veux dire, c'est les éléments de base, les éléments vitaux. Donc, les gens qui viennent chercher du pain et de la soupe, je veux dire, plus bas que ça, c'est difficile à faire. Bon, hein, on dit les femmes et les enfants d'abord. Mais quand on en est au pain et à la soupe, donc, il y a cette chose-là. Mais en dehors de cette chose-là, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on fréquente des lieux qui sont marginaux, des gens qui sont marginaux. C'est-à-dire que si vous, comme ça, vous sortez dans la rue, seul, aux endroits où on va, vous allez vous sentir en insécurité, vous allez vous sentir agressé, enfin, vous serez mal à l'aise. Si vous venez avec nous, vous allez être à l'aise. Donc, peut-être que vous seriez intéressé de venir avec nous parce que vous allez être dans un endroit où autrement, vous n'y seriez pas. C'est pas rien que de faire aligner 200 personnes dans la rue. Hein, quand vous voyez une manifestation sportive ou autre, vous avez des CRS qui viennent. Hein. Nous, on fait aligner les gens. Je veux dire s'aligner parce qu'on ne peut pas faire autrement pour distribuer. Donc, eh bien, avec nos petits bras, on fait aligner 200 personnes. Il y a une véritable compétence, je veux dire, voilà. Il suffit pas d'être gentil.
Au-delà du pain, de la soupe et de quelques vêtements chauds, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, depuis la création de Soupe de Nuit, d'aller au-delà et de venir en aide à une personne, je ne sais pas, peut-être pour lui apporter une aide particulière sur la voie du travail ou de la réinsertion ?
Ça nous est arrivé et nous n'avons pas eu d'expérience très heureuse en ce domaine. Voilà, au tout début, nous, quand on est partis, on se disait, on va sortir de là, ça va être formidable. Parti plein d'illusions, naïf complètement, ne connaissant absolument rien du tout de ce milieu-là. Et c'est vrai qu'au départ, nous avons côtoyé plusieurs personnes. Voilà, on a essayé de les aider. Je pense notamment à un jeune couple qu'on avait pris un petit peu sous notre aile, qui campait à l'époque au-dessus de la gare routière à Nice. Et dont on s'était occupé, ils avaient fini par avoir un petit studio. Et bon, et ça a duré un mois, et ils sont partis. Voilà. Il faut savoir qu'il est très, très difficile. Alors, je parle vraiment des SDF, hein, là. Pas de ce que nous rencontrons maintenant, les RSA, etc., tout ça, qui sont généralement, qui ont un logement sur la tête, ceux qui travaillent ont un logement aussi, les retraités aussi. Je parle vraiment des SDF. Quand vous dégringolez dans la rue comme ça, la rue est terriblement destructrice. En l'espace de quelques mois, vous êtes devenu asocial, comment on peut dire, quelque chose comme ça. Toujours est-il que si vous n'avez pas, quand vous dégringolez, quelqu'un qui vous attrape au vol et qui vous empêche de sombrer, après, il est très, très difficile de remonter la pente. Ces gens-là deviennent des personnes qui ne sont plus capables d'assurer un travail, qui ne supportent plus un chef de service, qui ne supportent plus leurs collègues, qui ne supportent plus d'arriver à l'heure, qui ne supportent plus la moindre réflexion, qui souvent tombent très, très vite dans l'alcool. Ça ne les aide pas, bien évidemment. Donc, pour sortir vraiment un SDF de sa situation, je n'irai pas dire que c'est mission impossible. Il y en a une infime minorité qui s'en sont sorties. Je crois que les deux mains suffisent pour les compter.
Ils n'en expriment pas en plus peut-être le besoin
non.
Ou l'envie.
Ben non, parce qu'ils sont dans cette vie-là. Et depuis tellement de temps qu'ils sont incapables de voir autre chose et de faire autre chose.
Beaucoup de ces personnes, ce sont de véritables marginaux. Des vrais marginaux, oui. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dérangés mentaux. Je veux dire dérangés mentaux pour ne pas dire des fous. Parce qu'autrefois, on les appelait des fous. On ne va pas dire des fous, mais ce sont des gens qui ont des grosses pathologies psychiques. Vous savez que maintenant, on ne garde pas les gens dans les asiles d'aliénés. On les traite, mais on les met dans la rue. Bon, mais ces gens-là, on les voit, hein, ils viennent à la soupe. Je veux dire que beaucoup de ces personnes sont de véritables dérangés mentaux.
C'est la rue qui les a rendus malades ou pas c'est forcément. Leur maladie qui les a amenés à la rue?
Les deux sont possibles, mais non, il faut être clair. Il y a beaucoup de gens qui sont à la rue parce que ce sont des dérangés mentaux. Voilà, c'est certain. On est confronté à la marginalité, à la vraie marginalité. C'est-à-dire que les services sociaux en France, on peut les critiquer, mais ils sont quand même bien organisés. Quelqu'un qui a perdu son travail, il va avoir une assistante sociale, on le branche, il va toucher le RSA. Il y a toujours possibilité. On peut se faire soigner. On peut se faire soigner. Quand on est à la rue, on peut se faire soigner. Mais oui, mais pour se faire soigner, il faut aller à Médecins du Monde, il faut aller... Et beaucoup de gens, ils ne se font pas soigner simplement parce qu'il faut faire une démarche, parce qu'il faut aller à tel bureau, parce qu'il faut aller voir l'assistante sociale. Vous perdez vos papiers, vous perdez votre carte d'identité. Si vous êtes français, vous allez voir une assistante sociale, on va vous dire, on va la refaire, votre carte d'identité, ce n'est pas difficile. Il faut aller au commissariat de police, faire une déclaration de perte, ensuite écrire à la mairie, demander un extrait d'acte de naissance. Ce n'est pas plus simple. Mais les gens, ils vont vous dire, oh, je suis allé voir l'assistante sociale, cette conne, elle m'a demandé, voilà. Alors qu'ils pourraient très bien, mais ce sont des marginaux, voilà, c'est des marginaux. C'est pour ça que c'est particulièrement difficile à sortir. Quelqu'un qui peut s'en sortir, souvent il n'est pas là. Hein. Si moi je tombe dans la rue, eh bien je pense que j'y resterai pas. Pourquoi ? Parce que d'abord je suis intelligent, parce que j'ai des amis, parce que je suis sobre. Je vais peut-être tomber dans la rue si Gisèle me met à la porte, je vais être dans la rue. Mais
Gisèle, vous n'allez pas le mettre à la rue ?
Non. Je vais le garder encore un peu.
Non, je veux dire, je vais rester un soir à la rue, mais après je vais trouver quelqu'un qui va m'héberger, après quelqu'un qui... Je ne vais pas traîner moi comme ça. Si je perds mes papiers d'identité, je vais voir l'assistante sociale et je vais me la faire faire ma carte d'identité, vous comprenez ? Parce que je suis intégré au système. Mais si je suis alcoolo, si j'ai pas pris mes médicaments, je vais tomber.
Pour tous ceux qui sont tombés dans la rue, une rue dont on ne se relève souvent pas, pour toutes ces familles en grande précarité et pour ces retraités qui viennent chercher gratuitement un repas, la soupe de nuit avec sa trentaine de bénévoles permanents est là. Oh, vous ne trouverez pas facilement Gisèle et Jean-Pierre en photo dans les journaux, arborant fièrement un sourire de contentement au vu de leurs actions accomplies. Ce couple-là n'a pas besoin des lumières des projecteurs pour œuvrer dans l'ombre des plus démunis. De la soupe, du pain et de la compassion, voilà ce qui les motive.
C'était une interview réalisée par Stéphanie Reynaud.